Grande conversation de l'Institut Néo-Québec, invité Oumar Diallo, directeur FinTech et Innovation à l'Autorité des marchés financiers. Bon. Mais d'abord, je vous remercie d'être venu. Ça s'appelle les grandes conversations. Ça va être la troisième édition qu'on fait avec une ambition qui est de... Je vous regarde, vous, parce que vous étiez les premiers. Partager le parcours de gens que j'estime vraiment être inspirant. Pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Il y a des gens qui ont des parcours particuliers. Oumar Diallo a accepté de participer à celle-là. Ça a été difficile, il faut que je le dise. Ça a été difficile de l'avoir parce qu'il a un agenda très, très, très compliqué. Mais je suis content qu'il soit là. Et donc, je vais faire ça comme je l'avais prévu. Tout simplement, pourquoi ? Parce que je vais lire plus ou moins la bio de Oumar, et vous allez voir qu'après ça va aller, voilà, tout simplement quoi. Mais à lui, j'aurais même plus rien à dire, ça va être vous qui allez commencer à dire, ok, allons-y. Alors, Oumar est un excusez mon anglais, je préviens, est un 2022 Atlantic Council Millennium Leadership Fellow et directeur de la FinTech et de l'innovation à l'Autorité des marchés financiers à Montréal, qu'on appelle communément l'AMF. L'AMF étant l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec. Oumar est titulaire d'un baccalauréat en économie et politique de l'Université de Montréal, d'un certificat de troisième cycle en études internationales avec spécialisation en économie internationale de l'Académie diplomatique de Vienne, aussi d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration de France. Il est également diplômé du Collège des administrateurs de sociétés avec une certification universitaire en gouvernance d'entreprise, où il a ce titre, cette désignation, administrateur de société agréée.
Certifié.
ASC. Merci, certifié. ASC. À côté de son nom, c'est ce qu'on met à côté du nom. Voilà. Donc, c'est quoi ? Grosso modo, c'est 15 ans d'expérience en analyse stratégique et réglementaire, en gestion de risques ou des risques, technologie financière. Il a travaillé en étroite collaboration avec les décideurs du secteur financier et des organisations internationales. Sûrement une chose facilitée par le fait qu'il est parfaitement trilingue. Français, anglais, allemand. C'est rare. Il a donc occupé des postes de direction dans des organisations telles que PricewaterhouseCoopers, la Banque Laurentienne du Canada, l'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, SNC-Lavalin. Et alors, il est dit d'Oumar Diallo que son parcours consiste à jeter des ponts entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Il va nous expliquer ça. Il est très impliqué dans sa communauté. Actuellement, on en parlait, il est membre du conseil d'administration de l'administration portuaire de Montréal. Pour faire simple, il est membre du CA du port de Montréal, ce qui est un fait particulier parce que c'est l'un des rares dans ce qu'on appelle communément la diversité à être à ce niveau au sein d'un conseil d'administration. Mais il fait partie d'autres conseils d'administration et même de certains comités. Je pense par exemple au groupe des 30 de concertation Montréal, au CECAM, au Centre culturel afro de Montréal. Il a été président du REPAF, ça c'est le regroupement des étudiants et professionnels africains, 2018-2019, lauréat du mois de l'histoire des Noirs de 2020. Et plein d'autres distinctions qu'il a eues. Notamment, il était finaliste du prix de jeune leader international du Québec. Ça, c'est au concours provincial Arista en 2020. Évidemment, membre de la troisième cohorte d'excellence Québec. Je ne sais pas si c'est la même cohorte que Isabelle qui est avec nous. Qui est avec nous. Et donc, vous avez compris, Oumar, c'est un citoyen canadien, originaire du Niger et de l'Autriche. J'ai envie de... Tiens, je vais m'amuser avec mes cours d'allemand.
Oui.
Mais je vais lire. Hein?
C'est bon.
Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wie geht's?
Danke.
Lui seul va vous dire ce que j'ai dit, mais moi je sais.
Non, je vais.
Je lui demandais comment il va. Et j'essayais de lui demander un peu, déjà lui dire que je suis très heureux qu'il soit là. Oumar, je veux qu'on essaye de passer à travers ce parcours-là. On dit canadien d'origine nigérienne et autrichienne. On a parlé de Vienne.
Ouais.
On rencontre des Allemands, des Belges, des Autrichiens, c'est très rare.
Ouais. Et même les Nigériens.
C'est vraiment une communauté, voilà, très très. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé là?
Mais déjà les questions démographiques. Donc, pour parler du Niger, on est maintenant 20 millions d'habitants au Niger. Bon. 20 millions, le Niger, l'Autriche, c'est 8, bientôt 9 millions. Mm-hmm. Donc déjà, bon, disons, en termes de population, il y en a moins que des Américains ou des Allemands, etc. Donc déjà, il y a un volet démographique à la chose. Mais je dirais plus particulièrement, l'Autriche et le Niger sont connus sous certains aspects. L'Autriche, les gens, bien entendu, connaissent le film La Mélodie du Bonheur. Les gens connaissent Sissi l'impératrice, Mozart, etc. Donc, évidemment, un pays qui a un rayonnement très fort d'un point de vue culturel. Donc, disons que les gens vont connaître l'Autriche à travers ce canal. Et les Autrichiens, en fait, voyagent. Mais les Autrichiens, en fait, comme certains ressortissants de pays d'Europe centrale et du Nord, sont souvent discrets. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment en grattant que vous vous apercevez « Ah, il vient de l'Autriche. » Donc, voilà. Même chose pour les Nigériens. Pendant longtemps, les Nigériens restaient vraiment au Niger. C'est vraiment à partir des années 90 que les Nigériens commençaient à bouger, etc. Donc,
tout ça pour dire qu'en fait, évidemment, Oumar Diallo, donc père nigérien.
Oui, en fait, c'est ça. Alors, pour recontextualiser, et je dis toujours que je suis immensément privilégié. Je dois énormément à mes parents. Donc, mon père, qui est né dans un village Peul au Niger, il a eu la possibilité d'avoir une bourse d'études pour étudier en Allemagne, dans les années 60. Donc, il arrive en Allemagne, il ne parle pas un mot d'allemand à l'époque. Donc, il a dû apprendre l'allemand d'A à Z. Il a fait ses études universitaires là-bas. Et par la suite, il a eu la possibilité de faire son doctorat en Autriche. Donc, c'est comme ça que mon père est arrivé en Autriche. Mon père était d'abord avec une Allemande. Donc, voilà. Et par la suite, ils se sont séparés. Mon demi-frère, mon grand frère, est né en Allemagne. Il est né à Berlin. Et par la suite, mon père s'est installé en Autriche, a terminé son doctorat, a commencé à travailler à l'Université de Vienne, donc comme enseignant en économie. Par la suite, il a connu ma mère en rentrant au Niger. Et ma mère, en fait, nigérienne, Peul, a fait les démarches en 1982 pour s'installer en Autriche. Elle ne parlait pas un seul mot d'allemand, mais elle s'est installée en Autriche donc pour être avec mon père. Et voilà, donc mes parents ont eu un parcours, en fait, grâce à l'éducation, grâce à leur persévérance, en fait, de bâtir toute une vie dans un pays où il y avait très peu de Noirs, en fait. Donc pendant longtemps, on était la seule famille africaine dans le quartier où on vivait. Mais des parents, vraiment, qui nous ont inculqué des valeurs traditionnelles africaines, donc voilà, de respect, etc. Mais également cette ouverture où ils nous ont toujours permis de très bien nous intégrer dans l'environnement, dans le milieu dans lequel on vivait, en fait. Donc j'ai eu cette chance d'avoir une éducation africaine, quelque part, versée en allemand, parce qu'en Autriche, on parle allemand, de très bien connaître aussi tous les référents culturels autrichiens, parce qu'il y a une culture aussi, comme je le disais, le mentionnais plus tôt, très riche, en fait, une histoire riche compte tenu du fait que l'Autriche c'était l'Empire austro-hongrois, donc vraiment beaucoup de choses à lire sur des empereurs, etc. Bref, donc versé dans cette histoire. Mais en même temps, et ça c'est intéressant, c'est que mon père a toujours dit, bah, écoutez, vous n'avez pas juste parlé allemand à la maison, là. Ça ne se peut pas. Donc vous irez tous au lycée français.
Okay.
Et voilà, donc voilà, tu grandis avec, disons, toutes ces influences culturelles, mais tu te bâtis aussi par rapport à certaines valeurs fondamentales.
Juste, j'anticipe. Qu'est-ce que... Donne-moi un trait de caractère que tu penses avoir gardé ou tiré de la culture autrichienne, allemande ou germanique.
Le fait que je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux et organisé. Ça, je ne le cache pas, là.
Comme on dit, je peux le témoigner.
Ça, oui. Ça vient de là. Absolument. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, j'ai dû aussi mettre de l'eau dans mon vin à certaines périodes de ma vie. Mais oui, définitivement, il y a ça. Et d'autre part, en fait, c'est que mes parents sont des personnes extrêmement généreuses. Et ces valeurs, en fait, de générosité, d'entraide, en fait, de s'engager, de s'impliquer dans la communauté, j'ai vraiment, c'est venu vraiment de mes parents. Donc, mon père, travaille pour les Nations Unies, c'est un idéaliste, donc voilà. Ma mère, systématiquement, c'était... Quand on rentrait au Niger tous les 2 ans, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens au village, etc. Donc, c'est vraiment, c'est resté ancré chez moi et mes frères. Donc, voilà. Donc, ça pour dire que c'était vraiment une belle enfance, avec certains enjeux aussi, parce que c'est pas facile d'être un jeune homme noir en Autriche, à Vienne, etc. Mais ça m'a donné vraiment tout ce qu'il fallait pour, par la suite, réussir, en fait. Que ce soit d'un point de vue académique, professionnel, etc. Donc, c'était vraiment différentes influences. J'ai su faire la synthèse, mais j'ai su aussi articuler tout ça, en fait, pour réussir d'un point de vue académique, professionnel, etc.
OK. On va aborder cet aspect-là avec 3 dates. Il y a 3 dates importantes dans... ton parcours jusqu'ici. 2003.
Mmh, ouais.
2011.
Ouais.
2013.
Ouais.
2003, c'est quoi?
Mais c'est quand je suis arrivé à Montréal la première fois comme étudiant international. Okay. Donc, voilà.
Alors, marquons un arrêt là. Comment on part de Vienne ou comment on est dans cette ville-là que nous, on voit, ville de château, comment on est à Vienne et on pense Montréal?
Ce qui est intéressant, c'est que l'Autriche, en fait, quand vous regardez l'histoire de l'Autriche, pendant longtemps, c'était un pays qui était vraiment, disons, à la confluence entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Donc, le rideau de fer, là, c'était vraiment la frontière avec la Slovaquie, la République tchèque, etc. Donc, c'est vraiment un pays entre les deux et un pays neutre aussi sur le plan politique. Un peu comme la Suisse. C'est seulement en 1995 que l'Autriche est rentrée dans l'Union européenne. Donc,
1995.
95. Mmh. Ils sont rentrés en même temps que la Suède et la Finlande dans l'Union européenne. La chose, c'est que, en vivant en Autriche, à un moment donné, vous sentez, et surtout, j'ai eu la chance de visiter la France, de visiter plusieurs pays, tous les 2 ans, rentrer au Niger, j'ai toujours senti ce besoin, en fait, d'aller découvrir quelque chose de différent. Quelque chose de différent de l'Europe et quelque chose de différent de l'Autriche, en fait. Et quand vous êtes dans un lycée français, le parcours naturel, c'est se dire, OK, la personne va faire son bac français et va faire ses études universitaires en France. Mmh. Ou, dans le cas de certains camarades, donc faire des études universitaires en Autriche ou autre. Je me sentais très, 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 très coincé, en fait. Je me sentais pas... Je sentais que faisant juste des études universitaires en Autriche, ça me limiterait. Donc, et j'avais toujours une admiration pour l'Amérique du Nord, pour différentes raisons. Parce que dans les années 90, en fait, j'adorais la musique américaine, j'étais un grand fan des Chicago Bulls, bref, donc j'avais un attrait pour les États-Unis et je me suis toujours dit, il y a quelque chose d'autre que les États-Unis et le Canada. Donc, Canada a toujours été quelque part, mais ça s'est précisé lorsque... En terminant le lycée, je me suis dit, bon, quelle pourrait être une bonne synthèse entre la francophonie, que je vivais au quotidien, même en vivant en Autriche, et en environnement anglo-saxon. Et c'est là où Montréal est rentré dans l'équation.
Okay. Où tu viens ici, donc tu vas à l'université, après le lycée de Vienne, tu vas à l'université, où tu obtiens un bac en économie. Oui. On va revenir là-dessus. Je parlais de trois dates, il y a 2011.
Ouais.
2011, c'est quoi dans ta vie, dans ton parcours?
Alors, tout simplement, alors, j'ai fait mon bac ici en 2003 et 2006. Vraiment une belle période. Honnêtement, j'ai adoré mes années étudiantes à Montréal et je te regarde là, donc, parce que ça m'a tout simplement élargi davantage mes horizons. Et j'ai toujours une validation que c'était le bon choix que j'avais fait à l'époque de venir étudier ici. C'était facile d'aborder les profs. En Europe, en prof est vraiment sur un piédestal, donc c'est pas facile d'accès. Donc, j'adorais cette ouverture, cette facilité en fait d'échanger avec les profs. En général, en fait, le fait que les gens n'ont pas nécessairement la grosse tête, comme on le voit dans certaines situations en Europe. Donc j'ai adoré mon expérience étudiante ici. J'ai terminé en 2006. Je suis rentré pour faire des stages parce que j'ai toujours su que c'est bien d'avoir des très bonnes notes à l'université, mais tu as besoin d'expérience pratique. Donc assez rapidement, j'ai su que je dois faire des stages, je dois me positionner pour rentrer dans des bons programmes de maîtrise, etc. Et je suis rentré en Europe pour faire un premier stage, en fait, donc à l'ONUSI. Ça m'a permis de me rapprocher de la famille, parce que l'ONUSI a son siège à Vienne. J'ai été accepté à l'Académie diplomatique de Vienne, donc dans un programme de second cycle en relations internationales. Et j'ai commencé à travailler à temps partiel pour The Economist, donc, qui est une publication anglophone. Je faisais tout ça et en prof à moi, Michel Culin, qui est malheureusement décédé, m'avait dit à l'époque...
Prof là-bas ou ici?
À Vienne.
Ici.
M'avait dit, écoute, t'es en francophone, t'as vécu au Québec, t'as un très bon niveau, tu devrais tenter le concours de l'ENA en France. L'ENA, chaque année en France, prend des étudiants internationaux. Il y a toujours un quart des effectifs à l'ENA, donc passe le concours, tente ta chance. C'est ce que j'ai fait. Donc, mon année 2008 est une année où j'ai juste travaillé comme un fou pour gérer le programme que j'avais à l'Académie diplomatique, travailler à temps partiel d'économiste et préparer l'ENA. Ça fonctionnait. Longue histoire, mais ça fonctionnait. J'ai une bourse pour étudier là-bas. Donc, et par la suite, je me suis mis en couple avec une Québécoise, en fait, que j'avais connue à l'époque. Et assez rapidement, en fait, on s'est aperçu, elle était juriste, que c'était peut-être plus pratique de revenir, en fait, au Québec. Et c'est comme ça que j'ai commencé à élaborer un plan pour revenir ici comme résident permanent. Donc,
Donc là, tu reviens définitivement en 2013.
Exactement.
Quand on dit souvent, la question qu'on pose souvent aux gens, pourquoi vous êtes venu au Québec, toi, on peut dire c'est par amour.
Absolument.
Voilà.
La deuxième fois, c'était la première fois, c'était
pour les études.
La deuxième fois, c'était vraiment un choix du cœur qui m'a fait revenir. Et voilà. Et par la suite.
Le reste, c'est de l'histoire. Je veux revenir à 2006. Quand tu finis ici et tu repars en Europe, là tu as dit oui, je voulais me rapprocher de la famille. Mais il y a ce prof qui te dit on prend les gens à l'ENA. Mais tu viens ici, tu fais ton bac. Dans ta tête, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu rêvais à quoi?
Moi, j'ai toujours eu un intérêt. C'est pour ça que je travaille chez le régulateur aujourd'hui. J'ai toujours eu un intérêt sur comment est-ce que les institutions arrivent à encadrer l'économie pour que l'économie marche bien, fonctionne bien et fonctionne dans l'intérêt de tous. Ça a toujours été quelque chose...
Dis que ton père était...
Lui, il était économiste.
Il était économiste. Voilà, d'accord. Économiste. C'est juste pour voir les discussions.
Donc, c'est ça. Donc, parce que je sais à quel point la façon dont est gérée l'économie peut créer des inégalités, en tout cas, des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, j'ai toujours... été intéressé de voir comment est-ce que le politique, les institutions peuvent encadrer l'activité économique en général. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un bac en économie et politique, pour voir les interactions entre ces concepts, etc. Mais également, en 2006, quand j'ai terminé ici, je me suis dit, bon, voilà, il faut que j'arrive à trouver en stage une façon, en fait, d'avoir une expérience professionnelle, en fait, qui me permettrait de travailler dans un domaine international, qui me permettrait d'aller dans cette direction. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des stages, à obtenir ce travail que je faisais à temps partiel chez The Economist, et aussi d'avoir une conversation très sérieuse avec mon prof à l'Académie diplomatique, Michel, qui était français, donc en français, mais qui enseignait à Vienne, et qui m'a dit, écoute, toi, tu aimes l'institutionnel, ça t'intéresse, tu adores la politique, pense à l'ENA. Et ce n'est pas inaccessible, c'est possible, mais tu vas devoir travailler vraiment fort. Ça va pas être simple. Il se peut que tu ne réussisses pas du premier coup. Il y a des gens qui se reprennent à 2-3 fois. Mais tente ta chance. Et ça fonctionnait.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'ENA, comme on appelle l'ENA Paris, l'ENA France n'a rien à voir avec l'ENAP de Montréal. Hein, c'est deux mondes complètement différents. Et quand quelqu'un va à l'ENA, Chirac, c'est Alain Juppé, c'est François Hollande,
c'est Macron.
Hein, c'est Macron, c'est... Pourquoi Omar Diallo est à l'ENA à Paris et il revient quand même ici?
Mais c'est l'amour.
Par amour. Ok, enlevant l'amour, est-ce qu'à ce moment-là, le jeune homme qui a envie de comprendre toutes les ramifications de l'économie, de la politique, essayer de changer le monde dans cet environnement ENA, ça ne lui dit pas de faire une carrière là-bas?
Mais j'étais resté pendant quelques années en France, on travaillait, etc. La particularité, en fait, c'est que quand vous n'avez pas la citoyenneté française, vous ne devenez pas automatiquement fonctionnaire en sortant de l'ENA. Okay. Donc mes camarades français sont tous rentrés automatiquement dans la fonction publique. Lorsque vous êtes étranger et que vous faites l'ENA, soit vous rentrez dans la fonction publique de votre pays d'origine ou vous rentrez dans le secteur privé. Donc moi, finalement, je suis rentré dans le secteur privé et c'est comme ça que j'ai par la suite fait mon parcours. Mais cette volonté de servir, donc de service public, est toujours en moi. Ce n'est pas pour rien que je suis chez le régulateur aujourd'hui. Mmh. Le régulateur est une institution, c'est public. Donc le public m'a toujours intéressé. L'institution, le fait qu'on doit administrer des lois, des pouvoirs, etc., ça m'a toujours intéressé. Donc j'ai toujours eu en tête, tôt ou tard, de vouloir travailler en fait dans de l'institutionnel. Ça a été clair dès le début. J'ai su que en revenant ici par amour que je trouverais une voie pour y arriver, mais vous ne savez pas, c'est-à-dire que c'est toujours une boule de cristal. C'est qu'ensuite vous arrivez dans un marché de l'emploi qui a certains paramètres et vous devez mettre en valeur vos compétences et ensuite ne pas oublier, ok, je veux arriver là comme destination et ensuite mettre en place les différentes choses. Voilà.
Je vais revenir sur le j'ai envie de dire quoi, ce choix de l'économie, ses ramifications, ses liens avec la politique. Et je reviens encore sur ce que faisait papa, qui lui était économiste. Est-ce que ça influe?
Pas nécessairement, parce que c'est... en plus, on ne s'entend pas tous... On n'est pas d'accord sur les mêmes choses parfois, là, quand on discute.
Exemple. Mais... Sur le plan économique?
Oui, c'est, okay. C'est plus... moi, je suis plus un gars qui a une sensibilité pour les entrepreneurs, pour l'entrepreneuriat. C'est pas pour rien que je m'intéresse beaucoup au fintech, etc. Voilà. Moi, je crois fondamentalement que voilà, les entreprises, le privé, a un rôle prépondérant important à jouer. Et que c'est, qu'il faut mettre un cadre en place pour faciliter en fait, l'émergence, que ce soit du secteur privé classique ou même de jeunes poussés, etc. Donc ça, j'ai toujours cru en ça. Mais c'est aussi une question générationnelle. Hein. Donc, disons, si vous avez vécu dans les années 70, 80, etc., c'est plus l'État dirigiste, l'État qui, en gros, qui a un rôle économique prépondérant, alors que moi, je crois beaucoup à l'initiative privée. Mais à l'initiative privée qui est encadrée, en fait, et qui est faite de façon responsable.
J'aurais aimé être une petite souris pour voir un peu vos discussions sur l'économie. Alors, retour à Montréal en 2013 définitivement. Ouais, et là, tu reviens pour travailler. Mm-hmm. Là, j'aurais besoin de ton aide. Je vois SNC-Lavalin en premier. Est-ce que c'est ça?
Non, la Laurentienne, en fait. La Laurentienne, avant de revenir ici, il faut se rappeler qu'en 2008, cette période 2008-2009, c'était la période de la crise financière, okay. La grosse crise financière. Mm-hmm. Lorsque j'étais à l'ENA, tu dois faire des stages en responsabilité. Donc, vraiment des stages où littéralement, on te met en situation où tu travailles en fait avec des décideurs importants. Moi, il y en a deux à faire. Tu dois en faire un à l'étranger, un autre en préfecture. J'ai fait mon stage à l'étranger à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Et j'avais travaillé dans l'équipe du Trésor français à l'époque qui était en train de négocier le plan de sauvetage de la Banque d'Axia qui faisait faillite en fait avec la crise financière, etc. Donc, j'ai eu la chance de voir first hand comment est-ce qu'on négocie et comment est-ce qu'on élabore un plan de sauvetage d'une banque qui est en train de faire faillite. C'est comme ça que j'ai découvert les accords de Bâle, les ratios, quels sont les ratios de capital et de liquidité qu'il faut pour faire, qui sont nécessaires pour faire fonctionner une institution financière. C'est comme ça que j'ai découvert les régulateurs, en fait, à travers ce travail que je faisais à Bruxelles dans mon stage. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir de l'information et du matériel pour rédiger mon mémoire de maîtrise. Parce que mon mémoire de maîtrise, je l'ai rédigé sur les questions de régulation financière, en fait. J'avais fait une étude comparative à l'époque entre les régimes réglementaires qui sont en place en Europe versus ceux des États-Unis et du Canada. Et j'avais travaillé pendant quelques années en gestion des risques, donc s'assurer que les accords de Bâle, etc. soient bien mis en œuvre. Et c'est comme ça qu'en revenant en fait ici en 2013, j'ai eu un job comme conseiller principal en gestion des risques et projets spéciaux à la Banque Laurentienne, où je conseillais le chef des risques de la banque sur ces sujets. Parce que j'avais eu une expérience très concrète et tangible sur comment est-ce qu'on applique les accords de Bâle en Europe. Et forcément, tout le monde, toutes les institutions financières à travers le monde, étaient tenues à un moment donné de mettre en place toutes ces règles de capital et de liquidité qui ont été votées en fait dans différentes juridictions dans le monde après la crise.
En formule sans les accords de Bâle, c'est quoi exactement?
Mais c'est des accords en fait internationaux qui sont faits par la banque. En fait, c'est la BCSS, c'est le comité de Bâle. Pour faire simple, c'est la banque centrale des banques centrales. Okay. Donc voilà, pour faire simple. Il y a certaines règles qu'il faut respecter. Donc, en termes de capitalisation pour une institution financière, de liquidité, il y a des ratios particuliers, mais ça, ce sont des accords internationaux. Les gens se mettent d'accord là-dessus. Et la Banque centrale, les banques centrales qui a Bâle, déterminent ces règles et ces ratios. Et suite à la crise de 2009, en fait, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Bâle 3 qui sont sortis. Et ça donnait beaucoup de travail à des consultants aussi pour accompagner les différentes institutions financières dans le monde pour qu'ils rehaussent leur niveau.
Donc, 2013, aujourd'hui 2023. 2013 Banque Laurentienne, 2023
je suis le régulateur.
Ça fait au moins 8 fois que tu le dis, tu es chez le régulateur. Ouais. Mais au milieu, il y a eu, donc on a dit, il y a eu Lavalin.
Oui, donc c'est ça. Donc deux expériences importantes. Donc Lavalin, où je faisais de l'audit interne, et par la suite PricewaterhouseCoopers, où j'étais à nouveau en gestion des risques. Et chez PwC, c'était intéressant parce que c'était une nouvelle associée qui venait d'être nommée. Avant, elle était la VP risque et conformité chez PSP Investissement. PSP Investissement qui est un des plus grands gestionnaires de fonds de pension au Canada. Elle a quitté PSP pour devenir partner chez PwC et elle souhaitait bâtir une nouvelle équipe en fait. Une nouvelle équipe qui avait comme objectif en fait d'aider des clients au Québec en français sur ces questions de gestion des risques. Parce que pendant longtemps, des institutions financières comme la Caisse de dépôt, autres, etc., mais ont besoin du staff en français pour les accompagner dans leurs activités. Souvent, les consultants étaient basés à Toronto et parlaient seulement anglais. Et ça ne marche pas. Donc, tu ne peux pas envoyer des gens qui sont unilingues anglophones chez les clients québécois. Et donc, on a monté ensemble, en fait, toute une nouvelle pratique chez PwC sur ces questions de gestion des risques, etc. Donc, c'était intéressant parce qu'à l'époque, j'avais quelques grands clients et c'était à nouveau la même chose. C'est le régulateur prévoit telle affaire, BAL prévoit telle affaire, comment est-ce qu'on implémente ça dans nos processus, etc. Donc, j'accompagnais des clients là-dessus.
Tu as un peu anticipé sur la question que je voulais poser de la Laurentienne à Laval. Je vais poser ça le plus simplement. Tu parles pourquoi?
Donc, moi, ce qui est intéressant avec la Laurentienne, c'est que ce n'est pas la plus grande institution financière. Elle est relativement régionale, en fait, quand on regarde la portée de la Banque Laurentienne. Et je pense que je te l'avais mentionné, l'international, le fait d'être actif à l'international m'intéresse. Ça, c'est quelque chose qui est en moi. Je me suis dit, à un moment donné, peut-être essayer d'explorer un autre domaine que le domaine de la finance. SNC vivait une crise très importante. À l'époque, ils ont mis en place tout un nouveau cadre d'éthique et de conformité, mais ils n'avaient pas d'équipe d'audit interne en place. Donc, il fallait bâtir une nouvelle équipe, donc une troisième ligne de défense, donc une équipe d'audit interne. Et ils cherchaient du monde pour cette équipe d'audit interne. Et ils cherchaient du monde, des personnes qui avaient un peu le réflexe réglementaire. Donc, comment tu fais pour justement t'assurer qu'on applique de façon concrète des règlements, etc. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette opportunité d'aller chez Sensei. Et ça faisait du sens parce que l'international m'intéressait. Je me suis dit pourquoi pas développer un skill set en audit, donc en faisant de l'audit interne, parce que ça vous permet de voir les process dans une entreprise et pas seulement des process financiers. Vous regardez aussi des process non financiers, etc. Et c'était le bon moment pour explorer une autre industrie. Donc, voilà. C'est comme ça que le move s'est fait vers SNC.
D'accord. Donc, SNC, PwC, ça, on a compris. Et puis, PwC, aujourd'hui, chez le régulateur. Là, on arrive donc dans le cœur du sujet. Je pose mes lunettes parce que ce mouvement que tu as fait, ce mouvement, le fait d'y aller, je l'ai appris comme tout le monde, très heureux pour toi, mais je n'ai cessé, et ça on en a discuté, de demander, mais c'est quoi FinTech? Directeur de FinTech et innovation. Ok, ça veut dire quoi? D'abord, il a fallu que je comprenne ce que fait l'AMF. Ça fait 8 fois que tu nous dis régulateur. Commençons par ça. L'AMF, est-ce que c'est quoi? C'est le gendarme des bourses? C'est le
Oui,
gendarme des banques?
de façon.
C'est quoi exactement l'AMF?
Oh, yes.
Ouais, c'est quoi l'AMF d'abord?
Je vais répondre à ta question pour remettre les choses en contexte.
Les grandes conversations de l'Institut Néo-Québec, invité Oumar Diallo, directeur FinTech et innovation à l'Autorité des marchés financiers. Fin de la première partie. Mon nom est Cyril Ekwala.